RNV. Il est temps de s'en aller vers un nouveau voyage. Et pour ce faire, je suis bien sûr avec Françoise. Salut Françoise.
Coucou.
Je me souviens que la dernière fois qu'on avait discuté entre nous, tu nous avais évoqué un voyage à venir, évidemment, un voyage du côté de l'Égypte.
Oui, ça date déjà de quelques temps, mais je me réjouis de t'en parler et d'en parler à ceux qui nous écoutent.
Alors bien sûr, l'Égypte, dans l'imaginaire commun, c'est beaucoup d'histoires. Quand je parle d'histoire, c'est l'histoire avec un grand H. Évidemment, on a tous en tête ces pierres magnifiques, ces œuvres folles, et aussi beaucoup de religions finalement. Est-ce qu'elle est conforme à ça, cette fameuse Égypte ?
Alors écoute, l'Égypte, pour commencer, je te parle de mon premier lien. En 65, j'étais à l'école et on a pu financer des fonds pour sauver le temple d'Abou Simbel. Mmh. Ils ont demandé jusqu'en Suisse, hein, parce que c'est des Français qui ont fait ça. Et on nous a évidemment passé des documentaires qui étaient extrêmement bien faits sur ces statues incroyables. Donc c'était mon souvenir, j'avais 9 ans. J'avais donné 5 francs, une fois pour acheter la prairie du Grutli et un autre 5 francs pour contribuer au sauvetage d'Abou Simbel.
Bah écoute, c'était 5 francs bien investis.
Voilà, alors tu posais la question de savoir s'il y avait de la diversité. Ben, la diversité l'a changé par rapport à il y a moins de 2500 ans, évidemment. Ben, c'est islamique, il y a évidemment une touche copte. 20% de la population est copte et tu trouves ça très très présent au Caire en tout cas. Et puis ben écoute, la période des pharaons très présente parce que ces monuments sont restés en bon état pratiquement, et on en a sauvé quelques-uns spectaculairement, dont Abou Simbel et puis aussi le temple de Philae à Assouan.
Quelle est l'impression que t'as donné justement cette façon de s'approprier l'histoire ? Est-ce qu'ils sont proches de cette période-là ou est-ce qu'ils la présentent comme on présente finalement quelque chose qui plaît surtout aux touristes ?
Ils sont très fiers de leur civilisation, ils sont très fiers de nous raconter l'histoire très touffue, très complexe. Hein. Déjà, pour comprendre comment les divinités s'organisent entre elles, qui est le fils de quoi, le demi-frère, voilà. C'est présent parce que quand tu habites Louxor, quand tu habites Assouan, tu vis au milieu de ces vestiges. Donc, comme nous vivons à côté de notre cathédrale à Lausanne, à ce titre-là, tu es imprégné comme ça. Sauf que franchement, c'est une des plus grandes civilisations que la planète ait jamais comptée.
Bien sûr, mais à la différence de la cathédrale, qui reste dans une religion active, on parle d'ici de quelque chose qui finalement a disparu.
Effectivement. Mais par exemple, toute cette relation à la mort, où dans le fond tu passes ta vie à préparer ta mort, et ton au-delà, est quelque chose d'extrêmement présent. C'est évident, quoi. Passer sur l'autre rive, on préparait ça pendant toute son existence.
Dans l'Égypte, bien sûr, comme ailleurs, évidemment, on parle de voyage, on parle de façon de se déplacer. On sait que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Quel moyen de transport as-tu utilisé pour parcourir ce pays ?
Alors, bah, on a pris un vol pour le Caire et après, on avait demandé à voyager en train à l'intérieur du pays.
Ok.
Ce qui a été une expérience absolument délicieuse parce qu'on vient de servir un repas et puis tu es avec les autochtones. Tu vois des choses que tu ne vois évidemment pas si tu prends l'avion comme d'habitude. Et bah, je crois que 90% des touristes se déplacent en avion pour aller du Caire à Louxor ou à Assouan, c'est les deux destinations les plus utilisées. Et nous, on a passé notre journée à admirer des paysages magnifiques et à connaître l'existence de villes le long du Nil, le long de la voie de chemin de fer, dont j'ignorais même l'existence, le nom. Hein.
Mais j'allais te le dire d'ailleurs, on avait parlé avec toi des trains en Suisse, bien sûr, on avait parlé avec toi des trains en Inde, qu'on sait extrêmement chargés, où il y a des gens partout, des couleurs de la vie, etc. Comment ça se passe en Égypte ?
Eh ben écoute, t'as une place réservée. En tout cas, on était en deuxième classe, B, voilà, avec des sièges très folkloriques, un peu défoncés, mais quand même confortables. Et puis, alors les toilettes, c'est toujours...
Fantaisiste.
Alors voilà, quand tu voyages beaucoup, ma foi, tu t'y fais. Et puis... Il y a beaucoup de va-et-vient, tu vois, que les gens voyagent d'une ville à l'autre pour les courses, ouais. Amener de la marchandise.
Donc c'est un moyen de transport qui est assez populaire tout de même.
Oui, très ouais. populaire. Mm-hmm. C'était aussi l'occasion d'être proche plutôt du peuple, parce qu'autrement, t'es un peu en groupe de touristes. Hein,
bien sûr.
Même petit, quoi.
Et bien sûr, la rencontre, c'est aussi quelque chose qui te plaît beaucoup.
Ah ben, c'est pour moi la chose principale dans le voyage. J'ai été au Japon, j'ai adoré le pays, mais j'ai eu tellement de peine avec les gens, donc je ne sais pas si j'y retournerai. Ils sont comme ça, hein. ils ne sont pas très communicants. Ce n'est pas un reproche, mais là, quand même, c'est très chaleureux.
Mmh. Créer du lien, justement, comment ça se passe avec les Égyptiens ? Est-ce qu'ils ont la discussion facile ?
Alors justement, une manière de les aborder, c'est de demander des renseignements historiques.
Oui.
Ils connaissent quand même pas mal leur divinité. Bon, là, on a eu évidemment des guides francophones très érudits, très formés, qui savent le français. Souvent, ben, je t'ai cité, on a eu deux personnes. Une des personnes n'était jamais sortie d'Égypte et elle n'osait pas, en tant que femme seule, aller faire un stage en France. Mmh. Et puis par contre, l'autre, alors elle avait eu plus de chance. Et elle nous a évidemment amené, parce qu'il faut quand même des traductions, un contact avec les autochtones.
Oui.
Quand on a des traducteurs et qui sont des gens du pays, c'est plus facile quand même.
Et l'acceptation de voir les touristes, d'échanger avec eux. On sait que par exemple, dans des milieux très touristiques, comme on peut citer Rome par exemple, il y a une sorte de ras-le-bol du tourisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir aussi en Égypte ou pas forcément ? Peut-être aussi le fait de suivre des circuits un peu alternatifs évite ce genre de problème.
J'ai eu le sentiment que ça cohabitait très bien, mais tu sais, il y a toute une partie où ils sont sur le Nil. On fait le parcours Esna, donc juste en dessous de Louxor, jusqu'à Assouan, en bateau. On a eu la chance de le faire sur un petit bateau, une dahabeya, mm-hmm. où il y avait 10 cabines.
Ah
c'était
oui,
le
magnifique.
Rêve, cuisinier pour nous, qui sont donc des bateaux à voile, mais malheureusement ont besoin d'être le plus souvent tractés par des remorqueurs.
Bah, c'est-à-dire que sinon on est au gré du vent et forcément on ne peut pas tellement tenir des horaires.
Non, voilà. Non, mais c'est magnifique. Il y a un ponton, tu es à l'air libre. Cette navigation sur le Nil est quelque chose de merveilleux pour moi, de très apaisant, très particulier.
Est-ce que c'est extrêmement calme comme rivière ? On imagine
oui,
que par sa largeur...
À part évidemment la navigation, mais c'est bien organisé. Mm-hmm. On voit qu'ils connaissent chaque mètre du Nil, donc le personnel navigant, parce qu'il y a quand même des endroits où il faut faire attention, où il y a peu de fond, même si c'est assez large. Et ils naviguent de nuit, ils n'ont aucun instrument. Hein. C'est vraiment des personnes qui connaissent leur fleuve comme les seins doigts de leurs mains, qui sont toujours adorables. Les gens sont vraiment gentils. Mmh. C'est vraiment une caractéristique que je pourrais affirmer. Et puis, comme je te dis, ils vivent au milieu de leur archéologie. Donc, souvent, les temples sont au bord du Nil, évidemment. Pour acheminer les pierres, c'était le plus simple.
Bien sûr. Déjà que c'était des travaux absolument gigantesques. C'est... Heureusement, il y avait l'eau.
Donc, pour eux, c'est la routine, quoi.
Ce Nil, j'imagine que quelque part, c'est aussi un peu la source de vie qu'on a là-bas. On est dans une zone assez désertique, en tout cas sur certaines régions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent encore aujourd'hui ? Tout est construit vraiment au bord ?
Oui, écoute, ils ont pensé, quand ils ont fait le barrage d'Assouan, qu'ils allaient pouvoir faire toute une vallée fertile, grâce aux crues. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ils pensaient. Parce que d'abord il y a moins d'eau et puis là ça a beaucoup abîmé la faune. Le fait de retenir de l'eau quand même, ça crée des problèmes. Oui, effectivement, la vie est très centrée Alexandrie, Le Caire, mm-hmm. et puis après le long du Nil, t'as des petites villes, mais vraiment le long du Nil. Hein.
Ouais.
Il y a pratiquement rien qui est installé en dehors des rives, enfin à ma connaissance du moins.
Oui. J'imagine bien que quand on va en Égypte, évidemment, il y a quand même des sites qui sont obligatoire. Je pense évidemment au plateau de Gizeh et ses fameuses pyramides. Est-ce que tu as pu en profiter ?
Mais oui, parce qu'écoute, on a eu la chance d'avoir un organisateur sur place. On a choisi un organisateur égyptien qui nous a choisi un hôtel au pied des pyramides.
Ok.
Hôtel des pyramides d'ailleurs. La prime. À Gizeh.
Ouais.
Donc on a eu la surprise quand on s'est réveillé le premier matin de notre arrivée, des pyramides, mais quasi dans la main. Donc ils sont au nombre de 3, comme tu t'en souviens peut-être de notre heureux temps de nos cours d'histoire à l'école.
C'est vrai.
Donc Khéops, moins 2560 avant Jésus-Christ, Khéphren, moins 2530, et Mykérinos, la plus petite, moins 2504. Et elles ont entre 146 et 65 mètres de haut. Et c'est donc une des 7 merveilles du monde, hein, ces pyramides.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé de questions. Mais comment ils ont fait ça ? Notre guide nous a dit, c'est ni le temps ni la main d'œuvre qui manquait.
C'est vrai. Peut-être un peu la technique, mais j'imagine qu'ils ont inventé des choses, ils ont développé des choses pour arriver à leur fin.
Absolument.
Comment tu t'es senti par rapport à ces monuments qui sont effectivement lourds en signification, lourds encore aujourd'hui, on parle de merveilles du monde en effet, et accessoirement assez massifs.
Ben écoute, un peu petite quand même, toute petite, en me disant, mon Dieu, 2500 plus 2000, 40 siècles sous
c'est
les
ça.
Yeux.
Construit pour durer, hein.
Et puis, bon, ils les ont un petit peu remontés, mais même pas trop. C'est des tombes.
Oui.
Donc, ça, c'est omniprésent, hein, l'au-delà, la préparation de l'au-delà qui te rappelle que, dans le fond, être vivant n'est qu'un passage. Impressionnant, ouais, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'on a inventé depuis dans le fond. Ils avaient des grands mathématiciens quand même, ces Égyptiens aussi. Hein.
C'est vrai. Et puis tu me montrais aussi, d'un point de vue artistique, qu'il y avait évidemment beaucoup de bas-reliefs et de choses comme ça sur ces tombes, sur ces temples, etc. Et tu m'as fait remarquer quelque chose que je ne savais pas, c'est que souvent ce sont les mêmes dessins, les mêmes messages finalement, puisque c'était des messages, ces dessins, qui sont reproduits, mais de façon un peu différente, potentiellement par des artistes différents.
Ben écoute, tu trouves ça aussi au palais de Rumine, hein, pas plus loin que Lausanne, où on a donné des mandats aux artistes en leur disant, ben écoutez, faites-nous des griffons, et puis chaque atelier a eu sa lecture parce que les artistes étaient différents. Donc là, je t'ai montré une déclinaison d'offrandes, c'était une tombe à Saqqara, c'était des canards dans un panier, donc il y a eu 4, 5, 6 lectures différentes, chaque fois complètement différentes. Alors, ce qui surprend, c'est le côté 2D.
Oui.
Il n'y a pas encore la perspective.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est des aplats.
Voilà, c'est des aplats. Mais moi, j'aurais pu rester là, mais je ne sais pas, une semaine, quoi, de regarder tous les détails. Parce que c'est fait avec une minutie, avec un art, c'est magnifique.
Et puis toi qui arrives pour le dessin, évidemment, tu te sens dans ton élément.
On était comblés de chez comblés, et une fois qu'on a vu 3 tombes, on aurait pu recommencer d'aller voir la suivante. C'est très varié, parce que dans le fond, de temps en temps, t'es sous terre pour aller voir une tombe, de temps en temps, t'es sur terre pour aller voir un temple, tu navigues sur le Nil, tu observes la faune, hein, des oiseaux, des échassiers très élégants, la vie sur les rives aussi, les gens te saluent, et puis tout le côté archéologique tellement extraordinaire, quoi. Je t'ai aussi parlé des coptes,
oui.
Il y a des beaux restes de choses coptes au Caire. On a passé 2 jours, et puis d'art islamique aussi, évidemment.
Absolument.
Et des mosquées somptueuses.
Qui sont les 2 religions prédominantes aujourd'hui.
Oui, oui. Ben, écoute, c'est 80-20% quand même.
Oui.
Hein. On sent quand même bien que l'islamisme est très présent.
T'as eu l'occasion d'ailleurs d'aller visiter différentes églises
Oui, oui, bien sûr, on avait demandé ça. Et donc, je t'ai parlé d'un moment extraordinaire dans la mosquée El Rifai.
Oui.
où est enterré le roi Farouk, le chat d'Iran aussi. Et notre guide avait décidé qu'elle en avait marre d'enlever ses souliers. Donc elle s'est mis des petits chaussons bleus. Elle s'est immédiatement fait poursuivre par l'imam de garde. Ils ont commencé à s'engueuler. Ce qui m'a étonné qu'un homme et une femme osent s'engueuler comme ça ouvertement. Et ça a duré 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, tout d'un coup, elle me dit « Viens, tu m'as demandé pour écouter un chant de muezzin. Il est d'accord de chanter pour toi. »
Okay.
J'ai négocié ça en échange du scandale qu'il m'a fait parce que j'ai dit qu'il fallait qu'il s'excuse parce que franchement, il m'a demandé des choses et il m'a maltraité. Et donc, le muezzin a chanté, ce qui était pour moi, chanteuse, quelque chose de vraiment magnifique. Et c'est là qu'il m'a appris qu'il avait fait une formation de 4 ans à l'université Al-Azhar, qui est donc la plus grande université islamique du monde, qui est au Caire.
Oui.
Que ça faisait partie de leur formation, qu'ils chantaient tous les jours, et que le Caire se faisait une grande fierté, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, de n'avoir que des muezzines qui chantaient en direct.
Et tu m'as appris aussi que dans les mosquées, comme dans certains de nos châteaux par ici, il y a des fois des acoustiques particulières pour créer des effets de voix.
Oui, alors tu sais, il y a beaucoup de coupoles, hein. Donc évidemment qu'il y a des réverbérations absolument inouïes qui peuvent s'utiliser pour vraiment faire porter les voix.
Mmh.
Donc j'étais enchantée d'avoir ce petit aparté musical pour moi. Et puis j'ai pu constater qu'un homme et une femme s'engueulaient, se rabibochaient et qu'elle l'avait convaincu de me montrer comment il chantait, il m'a renseigné. Enfin, c'est pour ça que j'aime les voyages, c'est que c'est tout le temps de l'inattendu. Puis les gens aiment bien te parler de leur culture.
Oui.
À moins que j'ai jamais ressenti un mépris de ma personne en tant que touriste ou même femme, nulle part. Je m'intéresse à ce qui se passe sur les lieux où je voyage. Maintenant, je n'ai jamais été me fourrer dans des trucs. Je ne serai jamais en Afghanistan, par exemple, peut-être.
Oui, oui. Et puis tu t'es mais aussi retrouvé en face de gens qui étaient heureux qu'on s'intéresse à eux.
Mais évidemment, mm-hmm. comme moi qui suis guide, hein, j'aime bien quand les gens me posent des questions sur ma ville, mon canton, mon pays, parce qu'ils sont curieux.
Oui, puis c'est ton patrimoine, puis donc évidemment, partager ça avec les autres, c'est quelque chose qui fait plaisir.
Par exemple.
Évidemment. On a parlé de cette Égypte ancienne, on a parlé de cette Égypte sur la religion, etc. Qu'en est-il de l'Égypte moderne? Comment s'est développée cette Égypte aujourd'hui?
Alors, comme tu le sais, en ce moment, économiquement, c'est loin d'être la joie. Le canal de Suez, qui est leur source de revenus numéro 1.
Ouais, tu me disais, on pensait au tourisme, hein, mais non.
Ouais, bah non, c'est le canal de Suez, effectivement. Ouais. Et donc, pratiquement plus de bateaux qui passent par là à cause de ce problème avec les Houthis.
Oui.
Donc, ils ont des problèmes économiques très conséquents. Et donc, ils sont très dépendants de gens qui leur prêtent des sous pour faire tourner le ménage, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est une vraie préoccupation économique. Il y a évidemment toutes sortes de gens qui s'intéressent à leur patrimoine et qui viennent aider à construire des musées. Ben là, ils vont inaugurer le nouveau grand musée du Caire.
Mmh.
J'espère qu'ils vont laisser l'ancien, semble-t-il que oui, et qu'ils ne vont pas trop le vider, parce que c'est un bordel pas organisé, absolument délicieux. Bon, quand tu as un guide, il t'amène voir ce qu'il faut voir, mais il y a un charme, évidemment, qui sera perdu avec ce nouveau musée qui est extraordinaire, mais qui n'a évidemment pas la patine de ce musée qui a été fait dans les années 30.
Oui, il aura forcément une saveur différente.
Donc l'Égypte moderne, ben écoute, elle est quand même assez islamique,
ouais.
Avec un pouvoir assez autoritaire. Ils ont évidemment les soucis avec les voisins israéliens qui essayent de leur faire accepter l'accueil des Palestiniens. J'ai demandé à ma guide ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit, je trouve que c'est scandaleux qu'on ne se positionne pas plus.
Oui, bien sûr.
Mais on sait que ça ne plairait pas aux Américains. Ou à ça, on ne sait pas qui. On n'ose pas tellement s'exprimer dans le fond.
Oui, puis tu le disais tout à l'heure, comme il y a des investissements multiples de différents pouvoirs, de différentes puissances, évidemment, on essaie de fâcher personne.
Ben, c'est des gens très dépendants
de
l'extérieur. Hein. Alors, le tourisme, ben, il est présent, mais Mon agent m'a dit, si tu peux m'envoyer du monde, ce serait chouette, parce que les gens sont quand même un peu frileux à cause de tout ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans. Quoi.
Mmh. On sait que, pour revenir à des choses plus gaies, tu as aussi un intérêt pour tout ce qui est nature. À quoi elle ressemble cette nature ? On a dans l'idée une Égypte qui est très désertique. Est-ce qu'elle l'est tant que ça ? Est-ce qu'il y a quand même des choses à voir sympathiques autour du Nil, ne serait-ce que là, puisqu'il y a cet apport d'eau qui amène une certaine verdure quand même, j'imagine ?
Oui, alors sur les bords, évidemment, c'est extrêmement fertile. Peut-être pas autant que ce qu'ils ont pensé, parce que le barrage a aussi posé un problème d'alluvion.
Oui.
Hein, donc, on utilise aussi des engrais qui, évidemment, font que le Nil est très pollué.
Bien sûr.
Donc, c'est extrêmement fertile. Il y a beaucoup, beaucoup de fruits, de légumes, des oasis. Je pense qu'ils arrivent quand même à s'organiser assez bien sans trop d'importations au niveau alimentaire. Parce qu'il est quand même long, hein, ce fleuve. Hein.
Bien sûr.
Et puis, tu as des petites îles. On a visité une là, qui était un oasis de verdure merveilleux. Des petits havres de paix comme ça. Mais effectivement, la majorité, c'est désertique. Hors des grandes villes et des villes un peu plus moyennes.
Enfin, tu parlais d'alimentation, de la problématique de l'alimentation, évidemment, dans le quotidien. Je sais que l'estomac est aussi quelque chose par lequel on voyage et qui te tient à cœur au passage. À quoi ça ressemble en Égypte ?
Alors écoute, tu manges beaucoup de pigeons.
Ok.
C'est un peu le plat national. Autrement, on a mangé pas mal de légumes, épicé tout à fait correctement. Et puis, bon, il faut faire très attention. C'est un des problèmes. C'est des problèmes alimentaires, c'est très connu en Égypte, qui te font des problèmes gastro-intestinaux assez conséquents qui handicapent vraiment ton voyage. C'est terrible.
Forcément, oui.
Heureusement, quand tu prends un guide, il te dit où aller ou pas aller, il vient avec toi, ou même quand il ne vient pas avec toi, il te dit, tu vois, il a l'air chic ce resto, mais non, les gens qui vont manger là, ils sont malades. Donc, au niveau habitude alimentaire, bon, on fait beaucoup de cuisine qui plaît aux touristes, mais ils mangent donc des galettes, de pain, c'est une nourriture moyenne-orientale, quoi. Mm-hmm. Donc du pois chiche, des lentilles, enfin des légumineuses. Et il y a vraiment beaucoup de légumes à cause des maraîchers qui œuvrent le long du Nil.
Et donc plein de choses à découvrir et à déguster, bien sûr.
Oui, puis à leur épicé, voilà, un passage au coin des épices du bazar Khan el Khalili au Caire. Te laisse un souvenir inoubliable, quoi.
Ah,
c'est ça aussi
bazar
qui fait leur différence. Hein.
Bah, bien sûr, bien sûr. Si tu devais avoir quelque chose d'insolite à nous raconter sur cette Égypte, à quoi tu penserais ?
Bah, je penserais à une visite précédente que j'ai faite où on m'a donné l'adresse d'un prêtre copte qui habitait en périphérie du Caire et qui m'a accueilli dans une de ses chambres d'hôtes. Il avait créé avec de l'argent qu'il a gagné en Belgique. Il avait fait des études et puis un temps, il a fonctionné comme prof d'archéologie. Je crois qu'il avait fait un mariage avec une femme qui avait du bien. Et il a décidé que son projet de vie de prêtre copte, c'était de créer dans le village où il était un lieu où il pouvait accueillir des ateliers d'artisanat pour les femmes, avec une garderie pour leurs enfants et un dispensaire médical.
Ok.
Donc ça, c'était vraiment assez insolite hein, de débarquer chez un abouna qui, en plus, m'a fait visiter le site de Saqqara, par exemple, habillé de sa soutane de prêtre, alors qu'il était archéologue. Et je lui ai donné un petit peu des coups de main après pour son dispensaire, pour lui envoyer du matériel. Puis il était triste parce que, ben, il semblait que l'imam, le vendredi, disait qu'il ne fallait pas aller chez le prêtre copte pour donner ses enfants à garder ou aller se faire ausculter. Parce que, par exemple, pour une femme musulmane qui se fait ausculter, elle vient toujours accompagnée d'un homme. Et puis, elle ne peut pas se déshabiller si c'est un médecin homme. C'est un peu compliqué. Et voilà, c'était le point insolite, c'était ce lien que j'ai eu avec cet abouna et qui a ressurgi dans ma vie quelques années plus tard.
D'accord.
Un jour où il fallait que quelqu'un comme lui soit là. Donc, on m'a dit, il vient, il veut te voir. Donc, je l'ai emmené à Romainmôtier visité l'abbatiale et j'ai appris là par SMS le décès d'un ami très cher qui est mort subitement.
Oui.
Il a fait un infarctus. Et il était à côté de moi et puis je lui ai dit « je viens de perdre quelqu'un que j'aime beaucoup ». Et il m'a regardé et puis il m'a dit « mais tu l'as pas perdu ? Il est dans ton cœur pour toujours ».
Il est parti faire un voyage.
Et ça m'a beaucoup éclairé. Et on était à Rome à moitié, ensemble. Donc il y avait ce lien aussi spirituel. Enfin, voilà, si j'ai un souvenir insolite à te dire, c'est ce que je te dis spontanément.
Mmh.
C'est qu'il y avait un petit peu d'Égypte avec moi aussi à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est quand même assez chargé. Hein. C'est très, très ancien. Donc, tu vois, quand tu as 40 siècles sous les yeux, c'est pas rien.
Mais il s'est passé beaucoup de choses.
Beaucoup de monde. Je veux dire, il y a une charge vraiment que j'ai peut-être trouvée à Jérusalem. Mais autrement pas. Enfin, moi, je sais pas, je suis très sensible à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça me chagrine beaucoup, évidemment, tout ce qui se passe en ce moment. Mais y a ça.
Oui.
C'est l'histoire de l'islam, de la chrétienté, enfin, de ces deux grandes religions du monde. Hein,
eh oui, c'est un berceau, évidemment, de tout ce qui
là,
a,
hein.
Ouais, de tout ce qui a construit pas mal de nos vies, finalement, en tout cas spirituelles, ici comme ailleurs, puisque, évidemment, entre l'islam et la chrétienté, ça fait beaucoup de monde sur cette planète, quand même.
Voilà.
Je te propose de terminer en musique, et je crois que tu avais une interprète en tête.
Oui, ben évidemment, Oum Kalsoum, dont on a, je ne sais pas si on l'a célébrée, mais elle est morte il y a 50 ans tout juste.
Mm-hmm. Et tu me disais que pourtant...
Elle est encore extraordinairement présente,
c'est
une
fou,
icône. Hein. Tu montes dans un taxi, tu demandes qu'on mette de l'Oum Kalsoum. J'ai jamais entendu un chauffeur de taxi qui ne m'a pas mis du Oum Kalsoum quand je le demandais. Elle est iconique.
Mm-hmm.
Bon, elle chantait évidemment. Il y a une espèce de nostalgie par rapport à cette période peut-être de l'histoire d'Égypte où on pensait Panarabi. Enfin, c'était les rêves de Nasser, hein, puis qui se sont malheureusement cassés la gueule.
Bien sûr.
Mais je pense que c'est quelqu'un que même la jeune génération connaît. Il y avait, je crois, autant de monde à son enterrement qu'à celui de Nasser. Et à Nasser, il y avait 1 million de personnes. C'est dire l'importance qu'elle a eue pour le peuple égyptien.
Eh bien, écoutons-la tout de suite. Merci beaucoup, Françoise.
Merci, Ago.
Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Avec plaisir.
Salut.
الله يزيد قلبك علينا حنان وينولك ما تشتي ولا ينسي حسنك وينولك ما تشتي ولا ينسي حسنك وعلى الإحسان ويكون نصيبك في الغرام فوق المرام دايما دايما بلا حرمان والأمر لك والنهي لك واللي ملك الاتنين
www.radionv.ch.